définitivement une belle journée pour être heureux. Je peux pas contredire. Vous êtes à Boulevard Against le matin. Très bien entouré en ce moment, je vous avoue. La semaine passée, on a commencé les matins en vous parlant de ce qui se passait chez nous. J'ai eu des problèmes. Il a fallu que j'amène le chien à la station. Ça a été bordélique parce que ma semaine, la semaine passée, s'est commencée avec 3 jours consécutifs où l'alarme de feu sonnait à la maison. À des heures, en plus, vraiment agréables. Tu sais, un beau petit 3h, 3h15 du matin. Ça
pas besoin de réveil.
Non, non, c'est ça qui est le fun. Ça lève sur le piton, on va vous dire. Puis ça arrivait sans arrêt. C'est pas la première fois que ça se passait non plus à la maison. Ça fait 2 ans qu'on habite en même place. Puis c'était la 4e fois qu'on vivait ce genre de séquence-là. Puis tu te poses toujours mille et une questions sur le coup parce que visiblement, à l'odeur, il n'y a pas le feu. Tout va bien. En même temps, tu sais pas comment ça marche. Tu pognes dans les murs. Y a-tu une affaire de gaz? Tu n'as aucune idée des possibilités qu'il y a. Fait qu'est-ce que tu fais? Ben, tu sors en robe de chambre à moitié tout nu. Puis ben, tu appelles les pompiers. C'est ça que tu fais généralement. Mais là, après une coupe de fausse, ça t'arrive où tu regardes les batteries, où tu changes tout ce qui n'est pas possible de changer. Il y a des questions à se poser. Puis je me suis dit, je ne suis certainement pas la seule à qui c'est arrivé. Il y en a peut-être aussi qui ne se rendent pas compte de l'entretien qu'il faut avec les détecteurs de fumée. T'sais, il y en a que ça se passe bien, le feu n'est pas pogné. Ça fait 8 ans qu'ils sont à la même place. Ils n'ont jamais pensé peut-être changer les détecteurs. Fait que je me suis dit, pourquoi pas faire une petite mise à jour? Puis par-dessus tout ça, il faut se le dire, c'est l'été. On est normalement festif, les feux d'artifice, le barbecue. Fait qu'on se fait une mise à jour commune avec les vacances qui sont bien entamées. Quand je dis que je suis bien entourée, Bill Noonan, qui est le porte-parole du service de protection contre les incendies de la Ville de Québec. Éric Gosselin, qui est également là, chef de peloton, division de la prévention. Messieurs, bon matin.
Merci.
Bonjour.
Merci d'être là. Je vais y aller assez directement. Quand le détecteur sonne, est-ce que tu appelles automatiquement les pompiers ou si tes vérifications donnent rien, tu fais juste, bon, je sais pas, moi, regarder la batterie. Tu sais, à un moment donné, quand ça fait 3 fois que les pompiers se pointent à la maison, t'hésites à rappeler parce que tu te sens un peu tannant. Fait que qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est obligatoire d'appeler automatiquement la centrale ou tu peux prendre le dessus de regarder toi-même ce qui se passe avec tes détecteurs?
Au niveau des avertisseurs de fumée, la plupart des gens l'ignorent, ça a une durée de vie. Un avertisseur de fumée, ça a une durée de vie maximum de 10 ans. Souvent, on va avoir un petit collant sur le côté de notre avertisseur qui va donner le lorsqu'on va venir le remplacer. Donc, c'est important de venir le remplacer. Et comme tu as mentionné, il faut faire une maintenance au niveau de l'avertisseur de fumée. Par exemple, des fois, je passe un petit coup d'aspirateur là, une fois par année pour éviter une accumulation de poussière. C'est des choses là, qui peuvent faire des appels qui vont...
De coccinelles,
notre avertisseur inutile.
Oui, mais c'est ça, ça. Oui, mais c'est un méchant bon point, Max, parce que moi, ce que j'avais appris, c'est qu'il y avait des coccinelles grillées qui s'étaient accumulées dans mes détecteurs de fumée. Fait que c'est important quand même. La poussière peut faire déclencher les avertisseurs, si je comprends bien, là.
Exactement. Puis on a différents types d'avertisseurs. On a des modèles qu'on appelle à ionisation. Puis on a des modèles qui s'appellent photoélectriques. Un modèle photoélectrique, par exemple, c'est près d'une cuisinière, près d'une salle de bain. On va sortir l'humidité, ces choses-là, ça va faire déclencher plus rapidement un avertisseur de fumée. Donc, si des fois qu'il va sonner trop souvent, parce qu'on fait de la cuisson, on prend nos douches, ce qui est peut-être privilégié, c'est vraiment un avertisseur de fumée de modèle photoélectrique.
OK, c'est plus sensible de ce que je comprends.
Le photoélectrique va être moins sensible à donner des fausses alarmes, par exemple, pour l'humidité. Mais l'ionisation, lui, ça va détecter plus rapidement. C'est deux très bonnes technologies, mais c'est l'endroit qui va être trop près d'une cuisinière, près d'une salle de bain, on privilégierait, là, par exemple, un modèle photoélectrique.
Et c'est aussi ce que j'allais ajouter, c'est que les nouveaux avertisseurs sont beaucoup plus performants. Donc, ils sonnent beaucoup moins. Donc, c'est important de changer lorsque leur vie est passée. Après 10 ans, il faut changer ça absolument.
Est-ce que les détecteurs doivent être... Chez nous, j'ai appris qu'ils étaient tous liés ensemble. Fait que si c'est celui, je sais pas moi, du sous-sol qui est défectueux, peu importe la raison, ça sonne un peu partout dans la maison de toute manière. Est-ce que c'est une bonne chose que les détecteurs soient tous liés ou c'est mieux de les mettre indépendants?
Tenez-vous, vos bâtiments d'aujourd'hui, on va voir les bâtiments. Tous nos avertisseurs de fumée vont être interreliés. Puis c'est vraiment une bonne affaire. Par exemple, s'il y en a un qui va sonner, bien, il va sonner sur l'ensemble des étages. Donc, on s'assure là, que, par exemple, si on a des enfants qui vont dormir au sol, nous, on dort, par exemple, au 2e étage, on est sûr que tout le monde est alerté. Il faut se le rappeler, les avertisseurs de fumée, on le voit régulièrement, là, ça sauve vraiment des vies. Là. C'est un outil indispensable qu'on a à la maison. Puis, on doit en avoir un par étage. Donc, un avertisseur de fumée fonctionnel il y a moins de 10 ans par étage, c'est quelque chose qui sauve des vies, puis on le voit régulièrement dans notre métier.
Il y en a qui sont directement reliés à la centrale, fait que vous avez directement l'appel quand ça sonne, puis il y en a qui ne le sont pas. Y a-t-il quelque chose qui est à privilégier? Moi, je me bats à la maison en ce moment. J'ai le petit chum qui me dit non, on ne fait pas relier ça, on a tellement de problèmes avec qu'ils vont débarquer constamment. Puis il y a moi qui est inquiète, puis qui aimerait ça que ça soit relié directement. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous privilégiez entre les deux?
C'est au choix du résident. Il y a des bâtiments que ça va être obligatoire. Par exemple, ça va être des avertisseurs de fumée, des détecteurs dans les corridors qui vont appeler directement au niveau du 911. Il y en a qui ça va être des sonneries locales. Ça va dépendre du type de bâtiment qu'on va avoir. En milieu résidentiel, dans une maison, c'est à votre choix. Mais ce que je privilégie, c'est vraiment surtout de s'assurer qu'il soit vraiment fonctionnel et qu'il ait moins de 10 ans.
Y a-t-il une limite, je vais dire, au nombre de fois où vous débarquez chez quelqu'un? Avez-vous une blacklist, mettons, dans votre centrale?
Effectivement, on a, en guillemets, une blacklist. Quand il y a souvent les alarmes à une adresse, on expertise, on va voir le propriétaire, puis on essaie de trouver des solutions. On peut pas laisser ça comme ça. Quand c'est des fausses alertes, ce que ça peut faire, exemple, dans un bâtiment locatif, c'est que les gens ils arrêtent d'évacuer à un moment donné. Donc, nous, on intervient, on travaille avec le propriétaire pour qu'il fasse faire les examens nécessaires à son système pour le rendre performant, faire en sorte qu'il n'y ait plus de fausses alarmes.
Ah, parce que c'est un peu crié au loup, au final. Hein?
Puis d'ailleurs, c'est un problème, ça. Parce que, tu sais, je me souviens, puis c'est pas des bonnes pratiques, mais dans des résidences de cégep, mettons, que l'alarme sonnait quasiment chaque soir quand quelqu'un faisait brûler des toasts.
On sortait plus.
Personne sortait, tu sais, puis c'est pas une bonne pratique. Puis c'est-tu problématique? C'est-tu quelque chose qu'on observe?
Ouais, oui, puis c'est dangereux. C'est vraiment dangereux quand un immeuble n'est pas évacué. À un moment donné, ça va être vrai. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas les flammes qui tuent, c'est la fumée. Donc, si les gens n'évacuent pas, on a vu dans le passé, après plusieurs minutes, les gens n'évacuaient pas. Donc, ça devient vraiment problématique. Les pompiers, quand ils arrivent sur les lieux, bien là, à ce moment-là, il faut qu'ils mettent leur attention sur l'évacuation au lieu de faire l'extinction. Ça peut être très, très dangereux. Donc,
c'est intéressant, je trouve, ce que vous dites par rapport à la fumée. T'sais, on voit ça des fois, et bon, là, je vais sortir une série que je regardais bien quand j'étais un peu plus jeune, là, mais This Is Us, c'est comme ça que ça s'appelle. Puis le papa de la famille est décédé en rentrant dans la maison chercher le chien. Et les flammes ne l'ont pas touché, mais ça a comme été une durée plus tard. Est-ce qu'on voit des séquelles quand les gens restent avec la boucane, ils ont l'impression d'être corrects? Faut-il absolument y aller à l'hôpital, justement, vérifier que tout est bon?
Parce qu'à un moment donné, on toxique. Le monoxyde de carbone fait en sorte qu'on n'a pas assez d'oxygène dans le sang. Donc, c'est très, très dangereux. L'exemple que tu donnes est très bon parce que moi, je l'ai vu, cet épisode-là.
Ouais, c'est
exactement ça qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas aller chercher nos animaux quand il arrive un incident. C'est à ne pas faire. D'ailleurs, quand on fait notre prévention avec les enfants dans les garderies, les écoles, c'est la première chose qu'on leur dit. Ça sonne, t'évacues, puis garde, les pompiers iront les chercher, mais toi, tu le fais pas. Là.
Ah, que c'est triste. Ah ouais, ben c'est ça, parce que vous pouvez vous en occuper pas mal plus que nous, au final. On parlait du nombre de fois où vous pouvez débarquer chez quelqu'un. Est-ce que les pompiers peuvent finir par donner des tickets?
C'est pas notre première approche. Notre première approche est toujours une mesure qui va être préventive. Aller vérifier, comme vous mentionnez. Faut pas hésiter non plus. Un soin qui peut avoir une problématique, peut communiquer au 3-1 de la ville, puis faire une requête au niveau de la division de la prévention, qui vont se rendre directement sur place, faire les vérifications nécessaires. Notre première approche, c'est toujours de façon préventive. C'est sûr que c'est quelque chose, par exemple, qu'il y aurait une négligence au niveau de la personne sur place. C'est sûr que ça peut aller jusqu'à des amendes, mais c'est jamais notre première approche.
Y a-t-il un pourcentage ou un nombre d'appels inutiles que vous avez par année?
Il y en a plusieurs, mais il y a beaucoup d'appels réels aussi. On se fait souvent dire « Ah, il n'y a plus d'incendie ». C'est totalement faux. Actuellement, là, présentement à Québec, là, est très occupé. Donc, oui, les fausses alarmes, ça existe. Il faut essayer de les diminuer le plus possible. Puis, comme M. Noonan dit, s'il y a quelque chose, là, vous avez une crainte, adressez-le au service 311. Nous, on va s'en occuper, on va expertiser, on va investiguer ça pour faire en sorte que vous soyez en sécurité.
Y a-t-il assurément qu'il y a une raison, mais ce que j'ai remarqué dans mon expérience des dernières semaines, c'est que les pompiers débarquent en gang. Hein. C'est jamais comme un ou deux camions, là, de façon subtile. 3h du matin, les flashs sont 6 camions, ça débarque en troupe. Y a-t-il une raison particulière, surtout quand on sait que, c'est sûr que quand il y a le feu, on se comprend, là, mais quand on sait, par exemple, après bon, 2-3 jours consécutifs où c'est un problème puis vous n'avez comme pas le choix de débarquer, pour quelles raisons vous arrivez quand même en troupe?
Nous, notre côté, le système d'alarme qui est en fonction, il faut toujours prendre pour acquis qu'il peut y avoir un incendie. Par exemple, à l'œil nu à l'intérieur, ça se peut qu'on ne voit rien, on ne voit pas de flamme, rien, mais ça se peut qu'il y ait le feu, qu'il soit pris dans un mur, par exemple, dans un secteur de plafond, plancher. Donc, nous, il faut toujours prendre ça au sérieux. Donc, c'est le pourquoi qu'on est répartis. Quand on arrive sur place, c'est une équipe de 4 pompiers minimum lorsqu'il va y avoir un incendie, par exemple. Un système d'alarme.
Mais c'est aussi la codification de l'appel. Dépendamment de la grosseur du bâtiment, bien, il va y avoir plus de pompiers.
Au cas, dans le fond, cas où il y a quelque chose. Là.
Ouais.
C'est impressionnant, en tout cas, quand ça débarque.
Vous, vous disiez qu'il y avait beaucoup d'incendies, puis on le voit en faisant les nouvelles chaque matin à la radio. Là, je dis pas qu'il y a des incendies chaque matin, mais il y a eu des bouts où beaucoup d'incendies criminels, notamment. Les raisons des incendies, j'ai nommé les criminels, il y en a eu beaucoup, mais à part ça, c'est-tu encore les mêmes, j'ai quasiment envie de dire, niaiseries qu'avant, du mégot de cigarette, puis quand je vois ça à toutes les fois, ça me fait capoter, mais c'est-tu encore là-dedans?
C'est la cause humaine est 90 % du temps. Effectivement, les mégots dans les potes à fleurs, toutes sortes de raisons comme celle-là, c'est encore réel, oui, encore aujourd'hui.
Mégots, on parle d'environ un incendie sur quatre présentement, là, qui sont occasionnés par des articles de fumeur.
Comme, c'est beaucoup, là.
Mon collègue, le chef Gosselin, a mentionné, on va voir au niveau des mégots de cigarettes qui sont disposés dans des pots à fleurs. On va voir des mégots de cigarettes qui vont être, par exemple, déposés dans le pays de cèdre à proximité d'un bâtiment qui a un revêtement de vinyle. Ou on va avoir un cendrier qui est pas adéquat là, pour disposer de nos cendres. Il faut prendre conscience. Oui, des fois, les gens vont prendre, par exemple, un contenant qui va être métallique, puis ils vont y déposer simplement les cigarettes. Il faut prendre en considération que le vent aussi, le vent peut faire chuter les mégots. Donc, ce qu'on recommande au niveau des cendriers, c'est d'avoir un cendrier qui va être approprié, puis de l'éloigner du bâtiment. Là. Souvent, les gens vont le garder sur un balcon, près du revêtement extérieur. On prend du sort, puis on met une bonne quantité d'eau pour s'assurer, là, lorsqu'on jette le mégot, qu'il soit complètement, complètement mouillé pour s'assurer d'éviter un risque d'incendie. Jamais jeter des mégots, comme je l'ai mentionné là, dans le pays de cèdre. Donc, le pays de cèdre, c'est du bois, hein, ça peut prendre feu. Puis nos revêtements qu'on a souvent dans la plupart des résidences, on va retrouver des revêtements entre la barre de vinyle. Donc, c'est facilement inflammable. On va retrouver des incendies qui vont prendre à l'extérieur et rapidement monter jusqu'à l'entretoit.
On vous rappelle qu'on jase avec Bill Noonan, qui est porte-parole du service de protection contre les incendies de la Ville de Québec, et Éric Gosselin, qui est chef division de la prévention. Ça a quasiment l'air, on a quasiment l'air de faire la morale, en fait, ce matin, mais vous le dites, 90 % c'est de cause humaine, fait qu'on est un peu derrière souvent ces incendies-là, puis j'ai envie qu'on change un peu de sujet tout en restant, évidemment, sur la même thématique. C'est souvent de notre faute, et là, c'est l'été. On en voit qui font des feux d'artifice pour le plaisir dans le cours à maison, on en voit qui font du barbecue, évidemment, pas mal tous les soirs, toutes les semaines. Y a-t-il des règles à respecter pour ce qui est du barbecue? J'ai entendu parler dans la dernière semaine d'assurance, entre autres. Que si ton barbecue est trop proche de la maison, tu peux avoir des problèmes avec les assurances. Il y a des règles, il paraît, à respecter pour ce genre de trucs-là.
Au niveau du barbecue, en début de saison, ce qui est recommandé, c'est toujours de faire notre inspection, nous, de notre tuyauterie, nos appareils avec, par exemple, de l'eau savonneuse. On va venir fermer nos ronds de barbecue et on va venir ouvrir notre bouteille pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite. S'il y a une fuite, on vient changer les pièces. Ça, c'est important. Puis au niveau de la distanciation, le barbecue, là, ça devrait être toujours à plus d'un mètre d'un mur, d'un revêtement. Le pourquoi, c'est que notre derrière de barbecue va être très, très chaud et propager un incendie. En faire également, vous l'avez mentionné, là, ça occasionne un risque. Mais tout ce qui est nettoyage, souvent, c'est une négligence qu'on fait. Tu sais, enlever les grilles, vraiment nettoyer la cuve de notre barbecue, voir des graisses accumulées qu'au travers des différentes utilisations, les années qu'on n'a pas nettoyées, c'est important de nettoyer le tout.
Tu fais quoi si le feu pogne dans ton barbecue? J'ai l'impression qu'on n'a jamais bon réflexe quand la panique embarque.
Tu l'ouvres-tu, tu le fermes-tu?
Ouais, c'est ça, qu'est-ce que tu fais?
Tu mets-tu
Si c'est sécuritaire de le faire, première approche, par exemple, c'est un barbecue qui va être au gaz. On vient fermer notre bouteille pour fermer l'alimentation en gaz, puis on va laisser le couvercle fermé pour tenter d'étouffer le tout le plus possible, qu'il y ait le moins d'oxygène, puis faire appel au service incendie qu'on s'assure là, qu'il n'y a pas de risque où il n'y a pas de propagation.
Pas s'il y a de la flamme, excuse-moi, mais s'il y a de la flamme puis qui est à un mètre, puis tout est fermé, il n'y aura pas de problème. Ça va se consumer puis tout va arrêter tout seul. Là.
Fait qu'on panique pas au bout d'une dizaine, quinzaine de minutes, ça va s'arrêter? Ou...
Mais avant ça.
Ah ouais?
En étant capable de couper l'alimentation, c'est beaucoup plus rapide que ça.
OK, c'est bon savoir.
Je lisais dans un article récemment à propos des fameuses lanternes volantes que pour tout plein d'événements, que ce soit mariage, que ce soit funéraire, tu peux allumer, puis là, ça s'envole, puis tu peux mettre un petit message là-dedans. Puis moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on en faisait des fois en camping, puis quand je repense à ça, ça n'a pas de maudit bon sens, là, c'est sûr. Puis je lisais que c'est carrément interdit, ça, dans la ville de Québec. Tu fais pas ça, puis comme je dis, que quand je repense à quand j'étais jeune, de faire ça en camping. En ville, c'est la même affaire. Ça peut atterrir sur une maison, ça peut atterrir dans une haie de cèdre. Fait que c'est carrément interdit à Québec.
Exactement. C'est notre territoire qu'on dessert. C'est totalement interdit, ce qu'on appelle souvent les lanternes volantes, lanternes chinoises. La problématique, c'est qu'on ne sait pas où ça va atterrir. Ces dispositifs-là peuvent atterrir dans une maison, dans un champ, dans une forêt, provoquer des incendies. Les gens peuvent ils vont en acheter sur Internet, mais c'est important de savoir là, que ça occasionne des risques supplémentaires pour les raisons que vous avez énumérées.
Si on parle de batterie dans les détecteurs de fumée, là, j'ai entendu dire qu'il fallait les changer deux fois par année. Je pense que c'est ça le message qui est véhiculé. Mais je me demandais, il y a des détecteurs, puis j'ai acheté ces détecteurs-là dans, dans un magasin à grande surface très populaire de Québec. Ouais. Et ça dit que la batterie est bonne pendant 10 ans, qu'il ne faut pas que je la remplace. Là. C'est écrit, tu sais, comme aucune pile à remplacer sur toute la durée de vie de l'avertisseur.
C'est une batterie au lithium.
Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça, c'est correct. J'ai pas besoin de la changer.
Non, non, c'est excellent. Puis la seule vérification que je vous conseille de faire, c'est de au changement d'heure, on fait la même chose, on vérifie s'il fonctionne, puis si tout est beau, c'est bon disant.
Ouais. Fait que si, mettons, quelqu'un, on fait juste cliquer sur le bouton, s'il fonctionne au changement d'heure, on se dit que la vie est bonne.
Tout est beau.
OK.
Ouais.
On a un irritant, je pense, comme vacancier au Québec quand on parle des feux qu'on veut faire en camping, à la maison. Hein. Mettons qu'on met les règles là, cette semaine, là, on en est où, puis qu'est-ce qu'on a le droit de faire? T'sais, moi, chez nous, j'ai une table, pas de couvercle. Est-ce que je peux faire un feu à la maison avec mes amis ou c'est interdit? Ou comme, où est-ce qu'on est rendu à Québec par rapport à ça?
Au niveau des foyers extérieurs, ce qui est permis sur le territoire, c'est d'avoir un foyer qui va être muni d'un pare étincelle. Donc, ça va être important que tu te munisses d'un foyer qui va être muni d'un pare étincelle pour pouvoir couvrir toutes les parties libres de l'appareil. Puis, lorsqu'on utilise notre foyer extérieur, on fait brûler du bois seulement, pas de matériaux de construction, on n'ajoute pas d'accélérant. L'accélérant, là, pourquoi? Parce que ça peut venir faire une poche de gaz qui peut être très dommageable, qui peut provoquer des blessures, puis provoquer un déclenchement d'incendie. Puis, au niveau des dégagements, notre foyer extérieur doit être à plus de 3 mètres de toute structure combustible. On va parler, par exemple, de toiture, de notre résidence, cabanon. Donc, le 3 mètres, c'est important. Puis d'avoir un pare étincelle.
Fait que les bonnes vieilles tubes à feu qu'on utilisait, là, ça, c'est plus... On
juste
arrête
camping.
Ça, là. C'est OK, je prends note. parlons de feux d'artifice. C'est pas mal la dernière chose qui me vient en tête. Je sais, j'habitais avant à Shannon, à Val-Bélair. C'est très populaire, les feux d'artifice. Très tard, à peu près à tout moment, en fait, dans la semaine. Il n'y a pas vraiment de restrictions, on dirait. Est-ce qu'il y a... En fait, premièrement, est-ce que c'est légal de faire des feux d'artifice? Ah oh, non! Pourquoi on vend ça en dépanneur?
Ça, c'est une question qu'il faut se pencher. Mais à l'heure actuelle, sur le territoire de la Ville de Québec, les feux... privé, que je pourrais dire, c'est interdit, à moins d'avoir un emplacement de 30 mètres par 30 mètres, vraiment libéré de toute structure.
T'as pas ça en ville tant que ça.
Ce qui est assez rare, effectivement. Donc, pour un feu là, d'artifice là, domiciliaire, que je pourrais dire, c'est une interdiction sur le territoire de la Ville de Québec. On a des patrouilles dans le courant de l'année qui ratissent de long en large la ville, mais c'est pas évident. On n'est pas capable de toujours arriver à temps, évidemment. Mais comme on disait tout à l'heure, ça aussi, ça a la direction du vent et tout ça, c'est assez difficile de contrôler ça. Donc, la possibilité de déclencher un incendie avec un feu d'artifice là, est très élevée. Donc, c'est pour ça que c'est interdit.
Ma dernière question va concerner tout ce qui est feu de forêt. On a eu des gros étés dans les dernières années. Cet été, bien là, c'était Port-Cartier dans les dernières semaines qui a été atteint. À quel point un service municipal comme celui de Québec suit de près la situation des feux de forêt? Ça ressemble à quoi, votre implication?
Au niveau des feux de forêt, c'est vraiment la gestion de la sub-feu. Nous, notre mandat, c'est au niveau, là, de, par exemple, un milieu résidentiel, puis à proximité de la forêt. Ce qui est vraiment forêt, c'est la sub-feu. Mais faire des feux, par exemple, dans la forêt, ces choses-là, là, on ne recommande vraiment pas aux gens de le faire. Ça peut être dangereux, ça peut propager des incendies vers des milieux résidentiels. On l'a déjà vécu sur notre territoire. Tu as parlé de Val-Bélair il y a quelques années, je me rappelle, là, on avait deux coins de rue complets, là, que le feu était pris là, à l'arrière. C'est une personne qui faisait brûler des débris. Puis le tout s'était propagé à la forêt. Puis on a plusieurs résidences là, qui ont passé près. Là. On était capable de limiter l'incendie à quelques mètres de certaines résidences.
Si jamais on avait un incendie dans la forêt, là, pas loin de notre territoire, évidemment, on sera en collaboration avec la SOPFEU. On a deux équipes dans deux casernes qui sont spécialisées. On appelle ça nos feux de broussaille. Donc, si on a quelque chose qui se passe chez nous au niveau des forêts de la Ville de Québec, on est quand même bien équipés là, pour contrer tout ça.
Merci, messieurs, d'avoir pris le temps ce matin de venir répondre à nos mille et une questions. Bill Noonan, porte-parole du service de la protection contre les incendies de la Ville de Québec. Éric Gosselin, chef de division de la prévention. Très apprécié d'avoir eu vos conseils ce matin. Vous repassez quand vous voulez, la porte est ouverte.
Merci, c'est toujours un plaisir de venir en studio.
Passez une belle journée. Et un peu de musique, les Smashing Pumpkins qui sont là ce matin. Today, à Boulevard 101, vous êtes dans Boulevard Against le matin. On s'accompagne jusqu'à 10h.